Quand on fait un sondage dans la rue et qu'on demande aux passants s'ils croient en Dieu et en Jésus-Christ, la plupart de ceux qui acceptent de vous écouter répondent par l'affirmative. Mais si on continue avec la question « Quelle incidence votre foi a-t-elle sur votre vie ?», alors là, on lit l'embarras dans leurs yeux car ils ne savent que dire. Et s'ils étaient vraiment sincères, ils répondraient « Ma foi n'a rien à voir avec ma vie de tous les jours ». Je continue à lire dans le second chapitre de l'épître de Jacques. « Tu ne réfléchis donc pas, veux-tu avoir la preuve que la foi sans les actes ne sert à rien ?» Verset 20. Avec cette nouvelle question, Jacques revient à son argument du début selon lequel la foi sans les œuvres est inutile. Littéralement, il dit « Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile ?» Le mot pour « vain » signifie « vide » et « défectueux ». Et le mot pour « inutile » comporte l'idée de « stérile », d'improductif. Jacques dit simplement que la foi véritable est accompagnée de bonnes œuvres qui sont la preuve de son authenticité. Je continue. Abraham, notre ancêtre, n'a-t-il pas été déclaré juste à cause de ses actes lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel? Verset 21. Cette question exige un oui comme réponse. Les gens mal informés opposent cette parole de Jacques à la déclaration de l'apôtre Paul qui dit qu'Abraham n'a pas été déclaré juste en raison de ce qu'il a fait, mais qu'il a eu confiance en Dieu et Dieu, en portant sa foi à son crédit, l'a déclaré juste. Fin de citation. Et en effet, dans le livre de la Genèse, Moïse écrit « Abraham fit confiance à l'Éternel et à cause de cela, l'Éternel le déclara juste. » Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, Martin Luther était tellement opposé au dogme catholique romain du salut par les œuvres et un défenseur si ardent de la vérité du salut par la grâce seul, au moyen de la foi seul, qu'il a été aveuglé et n'a rien compris à l'argument de Jacques, au point où il a dit avec dédain que sa lettre était une épître de paille. Le grand réformateur n'a pas su voir que Paul considère l'origine de la justification et Jacques son résultat, son aboutissement. La foi est la base sur laquelle Dieu déclare un homme juste et ses œuvres confirment cette foi en la certifiant conforme à l'exigence divine et donc authentique. Le moyen de la justification est la foi que seul Dieu peut voir, tandis que les œuvres en sont la preuve concrète, tangible et visible de tous. Martin Luther aurait dû étudier de près le verbe qui est traduit par « justifier » ou « déclarer juste », car il a deux significations différentes. La première se rapporte au fait de déclarer que quelqu'un est juste. C'est dans ce sens qu'en général, Paul l'utilise comme, par exemple, « tous sont péchés et ils sont déclarés justes par sa grâce ». Et encore, « voici donc ce que nous affirmons, l'homme est déclaré juste par la foi, sans qu'il ait à accomplir les œuvres qu'exige la loi ». Fin de citation. La deuxième signification du mot pour justification veut dire « reconnu comme juste », mais dans le sens de vrai, exact, correct. Par exemple, dans l'évangile de Luc, on lit que la sagesse a été justifiée par tous ses enfants. Paul dit qu'il est écrit de Dieu, « Tu seras toujours reconnu juste dans tes sentences ». Et il écrit à Timothée que Jésus-Christ a été déclaré juste par le Saint-Esprit. C'est dans ce deuxième sens que Jacques utilise « justification » quand il demande « Abraham, notre ancêtre, n'a-t-il pas été déclaré juste, c'est-à-dire véridique, authentique, à cause de ses actes lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel ? » Il faut aussi savoir que l'événement précis auquel Jacques fait référence a eu lieu de nombreuses années après que Dieu ait déclaré Abraham juste. Jacques opère une fusion entre la foi du patriarche et son acte de fidélité inconditionnelle. Jacques dit donc que l'obéissance d'Abraham à Dieu est une bonne œuvre qui prouve sa foi et que la foi véritable est indissociable des actes. Abraham avait une confiance sans bornes en Dieu. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'Abraham était sans état d'âme, mais en tout cas, il n'a montré aucune émotion et surtout, c'est semble-t-il, sans aucune parole, qu'il se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'Holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Fin de citation. Abraham savait que quoi qu'il arriverait, lui et son fils Isaac reviendraient. Dans l'Épître aux Hébreux, l'auteur dit que le patriarche pensait que l'Éternel ressusciterait Isaac d'entre les morts. Je continue le texte. Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Verset 22. Le mot traduit par « fut rendu parfaite » signifie « mener jusqu'au bout ». Comme je l'ai déjà dit, la condition du salut n'est pas d'avoir la foi et les œuvres. Ce n'est pas une combinaison des deux, mais quand la foi est authentique, il en découle tout naturellement des actes concrets visibles de tous. Le dernier arbre que je me souviens avoir planté est un prunier. Il a commencé par donner des feuilles et puis un jour il a produit des prunes, ce qui était tout à fait conforme à ce qu'il était. La raison d'être de toute plante et de tout arbre est de porter du fruit selon sa nature génétique. Porter du fruit n'est pas une fonction rajoutée à la plante, mais elle fait partie intégrante de ce qu'elle est. Même avant d'être semée, la semence contient le programme génétique qui déterminera le fruit qu'elle portera et qui est selon son espèce. Pour un croyant, c'est pareil. Il doit accomplir des œuvres qui sont dignes de sa nouvelle nature en Jésus-Christ, le fruit spirituel pour lequel il a été créé par la nouvelle naissance. Voilà pourquoi, en parlant de ceux qui se disaient ses disciples, Jésus a dit « Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est arraché et jeté au feu. Ainsi donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Fin de citation. Tout comme une plante n'a pas atteint son but tant qu'elle ne porte pas de bons fruits, la foi n'accomplit pas son objectif tant qu'elle ne se manifeste pas dans une vie juste et droite selon Dieu. Je continue le texte. Ainsi s'accomplit ce que l'Écriture déclare à son sujet. Abraham a eu confiance en Dieu et Dieu, en portant sa foi à son crédit, l'a déclaré juste et il l'a appelé son ami. Verset 23. Abraham est l'archétype, l'exemple parfait de quelqu'un qui est déclaré juste par Dieu et qui produit du bon fruit, qui accomplit des œuvres conformes à son état. Il est intéressant de noter que Jacques cite ici le même passage que l'apôtre Paul utilise pour défendre le principe de la justification par la foi seule, sans les œuvres. Abraham ne possédait aucun document écrit inspiré de Dieu. Il ne connaissait pas grand-chose de l'Éternel, mais il a répondu par la foi à tout ce que Dieu lui a demandé, et pour cette raison il a été déclaré juste. Abraham a aussi eu l'honneur d'être appelé l'ami de Dieu. Il est vrai que d'après les Écritures, Dieu aimait le patriarche et lui aimait Dieu. Abraham est appelé le père de ceux qui croient, mais il pourrait aussi bien être appelé le père de ceux qui obéissent parce que ces deux caractéristiques sont inséparables. Jésus a dit « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Je continue le texte. Vous le voyez donc, on est déclaré juste devant Dieu à cause de ses actes et pas uniquement à cause de sa foi. Verset 24. Cette formulation de Jacques peut surprendre parce que, considérée à la va-vite, elle est pratiquement l'inverse de celle de Paul quand il écrit « Voici donc ce que nous affirmons, l'homme est déclaré juste par la foi sans qu'il ait à accomplir les œuvres qu'exige la loi. » Comme je ne cesse de le dire, ces deux auteurs inspirés considèrent la justification selon des perspectives différentes. Les mots « juste », « œuvre » ou « acte » n'ont pas la même signification chez les deux hommes. Jacques parle de la foi selon le point de vue juif, le credo et les croyances, et les œuvres qu'il mentionne sont celles qui découlent d'une foi chrétienne authentique. Paul, quant à lui, parle de la foi chrétienne, la confiance en Jésus-Christ et en son œuvre sur la croix, et il oppose cette foi très personnelle aux pratiques juives de la loi de Moïse. La signification des affirmations de Paul et de Jacques dépend donc de la perspective que chacun adopte et du sens qu'il donne aux mots « juste » et « œuvre ». Je sais bien que je me répète, mais le sujet est trop important pour ne pas le traiter à fond. Je continue le texte. « Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres ?» lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin. Verset 25. Rahab est la deuxième personne que Jacques utilise pour illustrer que la foi sans acte concret est vaine. C'était une aubergiste païenne qui se prostituait pour survivre, elle et sa famille. D'après le récit de Josué, cette femme a placé sa foi dans le Dieu d'Israël qui, dans sa grâce, l'a déclarée juste. Alors qu'Abraham était un homme noble qui se situait au sommet de l'échelle économique et sociale, Rahab était tout en bas et pourtant elle est citée aux côtés d'Abraham dans la galerie qui honore les héros de la foi. Non seulement ça, mais Rahab devint l'arrière-grand-mère du roi David. Quand Rahab a eu la possibilité de prouver sa foi en l'Éternel, elle a risqué sa vie. Quand les espions israélites sont arrivés dans sa taverne, elle ne leur a pas dit « Je crois au même Dieu que vous et j'espère qu'il va vous aider ». Non, elle a dit « Je vais vous cacher ». Si le roi de Jéricho avait découvert ce qu'elle avait fait, elle et sa famille auraient été sommairement exécutés pour trahison. Rahab et Abraham n'ont pas prouvé leur foi au moyen de quelques rituels, mais en risquant ce qui leur était le plus cher. C'est dans le tourbillon de la vie, à la croisée des grands chemins, que la foi authentique se manifeste. Je finis le chapitre 2. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Verset 26. Cette affirmation de Jacques est la conclusion logique du discours qu'il a mené tambour battant suite au problème qu'il a soulevé au début du chapitre quand il a dit « Mes frères, gardez-vous de toute forme de favoritisme, c'est incompatible avec la foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ. Le croyant doit prouver sa foi en plaçant riches et pauvres sur le même pied d'égalité et en venant au secours de ses frères qui sont dans le besoin. S'il ne le fait pas, sa foi est une coquille vide, sans intérêt. » Nous arrivons au chapitre 3 dont le sujet est la langue, l'instrument qui dit des paroles. Le mauvais usage de la langue est sans aucun doute le moyen de mal faire le plus facile et le plus rapide. Il y a des péchés qu'on peut ne pas commettre parce qu'on n'en a pas l'occasion. Mais bien que la langue soit enfermée dans la bouche, dans une cage derrière les dents, il n'y a pas de limite aux dégâts qu'elle peut faire. La liberté d'expression est un concept cher aux démocraties et qui est garanti par leur constitution. Par contre, il n'existe aucune protection contre tout ce qu'on peut entendre et c'est bien dommage parce que on peut fermer sa bouche mais pas ses oreilles. La plupart d'entre nous prononçons des milliers de mots au quotidien, mais combien sont des malversions ou des médisances? Combien ne devraient pas être dits? Et combien sont vraiment utiles? Dans les Écritures, la langue est affublée d'adjectifs peu flatteurs comme méchante, trompeuse, perverse, souillée, corrompue, flatteuse, médisante, bavarde, blasphématoire, insensée, vantarde, sensuelle, vile. Les rabbins comparaient la langue à une flèche tirée d'un arc plutôt qu'à un poignard ou une épée parce qu'elle peut blesser et tuer à distance. Effectivement, elle peut causer beaucoup de préjudice, même quand elle est loin de sa victime. L'apôtre Paul exhorte les croyants disant « Ne laissez aucune parole blessante franchir vos lèvres, mais seulement des paroles empreintes de bonté, qu'elles répondent à un besoin et aident les autres à grandir dans la foi. Ainsi, elles feront du bien à ceux qui vous entendent. » Fin de citation. On a coutume de dire qu'il faut tourner la langue cette fois dans sa bouche avant de parler. Je ne sais pas d'où vient ce conseil, mais si je l'avais toujours suivi, je me serais évité pas mal de déboires. Un des miracles rapportés par l'Ancien Testament est l'histoire d'un âne qui, étant battu par son maître, s'est mis à lui parler. Mais aujourd'hui, le miracle, c'est quand un âne se tait. Je suis le maître de mes paroles non dites, mais la parole dite est maître de moi. Et croyez-moi, j'en sais quelque chose. En d'autres mots, une fois que j'ai prononcé des paroles, je ne les contrôle plus. Pour cette raison, avant d'exprimer ma pensée, je devrais réfléchir et la communiquer en fonction de 5 critères: à qui je parle, de qui je parle, comment, quand et où. Sur l'une des étagères du laboratoire de la vie, Jacques prend un flacon qui contient un produit très puissant avec lequel il va tester la validité de la foi. Sur l'étiquette de ce flacon est écrit « la langue ». Jacques est très préoccupé par ce petit instrument puisqu'il le mentionne dans chaque chapitre de son épître. Il a déjà fait la remarque, mais seulement en passant, que la langue mesure la condition spirituelle de l'âme humaine. C'est un bon moyen d'évaluer quelqu'un et surtout sa religiosité. Il a dit que chacun de vous soit toujours prêt à écouter, qu'il ne se hâte pas de parler ni de se mettre en colère. Si quelqu'un croit être religieux, alors qu'il ne sait pas tenir sa langue en bride, il s'illusionne lui-même. Sa religion ne vaut rien. Maintenant, Jacques va mettre la langue et la spiritualité d'une même personne dans son éprouvette et décrire en détail où cette expérience le conduit. La bouche est comme l'antre d'un puits qui descend jusqu'au cœur et d'où remonte, pour jaillir à la surface sous forme de paroles, toute la méchanceté qui se trouve dans les bas-fonds. Ce que dit la langue révèle ce qui se trouve dans les tréfonds de l'âme. Jésus a dit, je vous le déclare, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole sans fondement qu'ils auront prononcée. En effet, c'est en fonction de tes propres paroles que tu seras déclaré juste ou que tu seras condamné. Car c'est du cœur que proviennent les mauvaises pensées qui mènent au meurtre, à l'adultère, à l'immoralité, au vol, au faux témoignage, au blasphème. Voilà ce qui rend l'homme impur. Après avoir mangé du fruit défendu, le premier péché d'Adam a été une calomnie. En effet, quand il a dit à l'Éternel, « C'est la femme que tu as placée auprès de moi qui m'a donné du fruit de cet arbre et j'en ai mangé. » Il reprochait à Dieu de lui avoir donné Ève et donc d'être indirectement responsable de sa désobéissance. Et quand Paul décrit la dépravation des hommes, il dit « Leur gosier ressemble à une tombe ouverte, leur langue sert à tromper, ils ont sur les lèvres un venin de vipère, leur bouche est pleine d'aigres malédictions ». C'est dans une vision qu'Ésaïe a reçu sa charge de prophète de l'Éternel auprès du peuple de Juda. De manière tout à fait compréhensible, quand il a vu la gloire et la sainteté de Dieu, il a été convaincu de son état de péché. Mais ce qu'il a dit vaut la peine d'être relevé parce que spontanément, il a d'abord vu ses péchés et ceux de son peuple qui étaient associés à la langue. Il s'est écrié « Malheur à moi, je suis perdu, car j'ai les lèvres impures et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et voici que de mes yeux j'ai vu le roi, le Seigneur des armées célestes. » Fin de citation. Jusqu'à présent, ce que j'ai dit concernant la langue est plutôt négatif. Pourtant, celui qui a été transformé par Dieu possède un langage renouvelé et il peut désormais utiliser sa langue à la gloire de Dieu. Mieux que tout autre homme, David savait louer l'Éternel. C'est lui qui a dit « Éternel, notre Seigneur, que ta gloire est admirable sur la terre tout entière. Au-dessus du ciel, on célèbre ta splendeur. Oui, je chanterai ta justice et ta louange tout le jour. » Saisi par la splendeur de la création, il a chanté « Quand je contemple le ciel que tes doigts ont façonné, les étoiles et la lune que tes mains ont disposées, je me dis « Qu'est-ce que l'homme pour que tu en prennes soin et qu'est-ce qu'un être humain pour qu'à lui tu t'intéresses ?» Tous les cieux proclament combien Dieu est glorieux, l'étendue céleste publie l'œuvre de ses mains. David n'avait pas son pareil pour rendre hommage à la parole divine. Il écrit « La loi de Dieu est parfaite, elle nous redonne vie, toutes ses affirmations sont dignes de confiance ». Aux gens sans détour, elles donnent la sagesse. Justes sont ses exigences, elles font la joie du cœur, et ses ordres, si limpides, donnent du discernement. L'apôtre Paul reconnaît que la langue est un moyen de bénédiction. Il écrit que la parole du Christ réside au milieu de vous dans toute sa richesse, qu'elle vous inspire une pleine sagesse, pour vous instruire et vous avertir les uns les autres, ou pour chanter à Dieu de tout votre cœur des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit, afin d'exprimer votre reconnaissance à Dieu. Dans tout ce que vous pouvez dire ou faire, agissez au nom du Seigneur Jésus, en remerciant Dieu le Père par lui. » Fin de citation. Comme le dit Jacques, de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La bénédiction ou la malédiction, c'est à vous et à moi de choisir.